Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, troisième cassette, première face, page 58. Quand Tom arriva en vue de l'école, il pressa le pas pour se donner l'air d'un élève qui n'a pas perdu son temps. Il accrocha son chapeau au porte-manteau et s'assit à sa place d'un air affairé. Le maître, que le bourdonnement de l'étude avait assoupi dans son fauteuil, se dressa d'un bond.
Thomas Sawyer!
Tom savait que quand on l'appelait par son nom tout entier, cela ne présageait rien de bon. Monsieur,
venez ici! Toujours en retard? C'est une habitude chez vous?
Tom était sur le point de mentir quand il aperçut deux longues nattes de cheveux blonds dans le dos d'une personne que son cœur lui fit reconnaître. De plus, il remarqua que la seule place vacante du côté des filles était précisément auprès d'elle. Changeant ses batteries, il répondit sans embâge. « Je m'étais attardé à causer avec Huckleberry Finn. » Le maître eut un haut-le-corps et regarda Tom avec stupeur. Le bourdonnement de l'étude cessa. Les élèves se demandaient si l'imprudent n'avait pas perdu l'esprit.
« Qu'est-ce que vous dites ?»«
Je m'étais attardé à causer avec Huckleberry Finn. »«
Thomas Sawyer, c'est là l'aveu le plus surprenant que j'ai jamais entendu. Cette faute mérite un châtiment. Ôtez votre veste !»
Le bras vengeur frappa jusqu'à ce qu'il fût fatigué et que le paquet de verges eût notablement diminué. Puis le maître ajouta.
« Maintenant, monsieur Thomas Sawyer, allez vous asseoir avec les filles, et que ceci vous serve de leçon. »
Devant les ricanements qui s'étaient élevés dans la classe, Tom avait paru rougir de honte. En réalité, ce qui le remplissait de confusion, c'était le respect mêlé de crainte qu'il éprouvait pour son idole inconnue et l'heureuse surprise de la bonne fortune qui venait de lui échoir. N'allait-il pas approcher de son idole? Il s'assit à l'extrémité du banc. La jeune fille eut un dédaigneux mouvement de tête et se recula jusqu'à l'autre bout. Les camarades se poussaient du coude, échangeaient des clins d'œil et des chuchotements. Tom resta immobile, les bras sur son pupitre, paraissant absorbé dans l'étude de ses leçons. Peu à peu, l'attention se détourna de lui. Le bourdonnement habituel reprit son cours. Tom lança à sa voisine de furtifs coups d'œil. Celle-ci s'en aperçut, fit une moue et lui tourna délibérément le dos pendant un instant. Quand, prudemment, elle se retourna, elle trouva devant elle une pêche qu'elle repoussa. Tom la lui offrit à nouveau. Elle la repoussa encore, quoique avec moins de fermeté. Tom renouvela sa manœuvre. Cette fois, elle ne repoussa plus la pêche. Tom écrivit sur son ardoise. « Prends-la, j'en ai d'autres. » La jeune fille lut, mais ne broncha pas. Tom commença à faire sur son ardoise un dessin qu'il cachait soigneusement de sa main gauche. D'abord, elle n'y prêta pas attention, puis le désir de voir fut le plus fort. Tom continua comme si de rien n'était. Elle essaya de regarder. Tom fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Cédant à sa curiosité, elle finit par murmurer timidement. « Fais voir !» Tom découvrit à moitié un gribouillage informe représentant une maison à deux pignons et une cheminée, de laquelle s'échappait un filet de fumée en forme de tire-bouchon. La fillette se passionna pour ce chef-d'œuvre au point qu'elle en oubliait de travailler. Quand la maison fut terminée, elle l'admira un instant, puis chuchota. « Ce qu'elle est jolie !» Dessine un homme maintenant. » L'artiste en herbe dessina au premier plan un immense bonhomme qui ressemblait au derrick d'un puits de pétrole était de taille à enjamber la maison. Mais la petite n'était pas difficile. Cette sorte de monstre lui plut. « Magnifique !» dit-elle. « Dessine-moi maintenant. » Tom dessina une espèce de sablier surmonté d'une pleine lune avec des bras qui ressemblaient à des fétus de paille et des mains aux doigts écartés qui tenaient un éventail gigantesque. La petite dit « Oh, c'est splendide! Je voudrais bien savoir dessiner. »«
C'est pas difficile, je t'apprendrai, » dit Tom.
« Tu veux bien? Quand ?»«
À midi. Est-ce que tu retournes chez toi pour déjeuner ?»«
Je resterai, si tu veux, » dit-elle.
« Oh, ça c'est chic. Et comment t'appelles-tu ?»«
Becky Thatcher. Et toi ?»«
Ah oui, je sais.
Thomas Sawyer. »
Pouf, c'est comme ça qu'on m'appelle quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout va bien, je m'appelle Tom.
Tu m'appelleras Tom ? Veux-tu ?
Oui, dit-elle. Tom recommença à tracer quelque chose sur son ardoise en se cachant. Mais chez la petite, toute timidité avait disparu. Elle demanda à voir.
Tom dit : Ça n'est rien.
Mais si, c'est quelque chose.
« Non, ce n'est rien, tu n'y tiens pas. »«
Mais si je tiens à voir, » dit-elle, « montre un peu. »«
Tu vas le raconter. »«
Non, je le raconterai à personne, c'est juré. »«
Tu ne le diras à personne aussi longtemps que tu vivras ?»«
Non, je le dirai à personne, je te dis. »« Et maintenant, fais voir. »«
Non, ça ne t'intéressera pas. »«
Oh, puisque tu le prends comme ça, je veux voir. »
Elle mit sa petite main sur celle de Tom. Un simulacre d'escarmouche s'ensuivit, Tom faisant semblant de résister pour de bon, mais retirant petit à petit sa main jusqu'à ce qu'elle pût lire « Je t'aime ».
« Oh, le vilain !»
Elle lui donna une tape sur la main, rougit et ne parut nullement contrariée. À cet instant précis, Tom se sentit saisi par l'oreille et eut l'impression d'être soulevé de son banc. Il dut traverser ainsi toute la classe et fut ramené à sa place habituelle sous les regards railleurs de ses camarades. Le maître se tint derrière Tom pendant quelques instants qui parurent à Tom un siècle. Puis il retourna à sa chaise sans dire un mot. L'oreille de Tom lui brûlait, mais par contre, il avait de la joie plein le cœur. Quand la classe fut calmée, Tom essaya loyalement de s'appliquer à ce qu'il faisait, mais en lui l'agitation était trop forte. Au cours de lecture, il échoua lamentablement. Au cours de géographie, il transforma les lacs en montagnes, les montagnes en fleuves, les fleuves en continents et les continents en chaos. Au cours de dictée, il trébucha sur l'orthographe des mots les plus élémentaires, tant et si bien qu'il fut le dernier de sa classe et dut restituer la médaille qu'il portait avec ostentation depuis des mois. Chapitre 7 Fiançailles. Plus Tom cherchait à s'absorber dans son travail, plus ses idées vagabondaient. Il soupirait, il bâillait. De guerre lasse, il n'insista plus. Il lui semblait que l'heure du déjeuner n'arriverait jamais. La chaleur était accablante, sans un souffle d'air. Dormir semblait la seule occupation possible. Dans la classe, le murmure confus de 25 écoliers engourdissait l'esprit comme un bourdonnement d'abeilles. Au loin, sous un soleil de plomb, la colline de Cardiff Hill étageait ses pentes vertes à travers une brume de chaleur. À l'exception de quelques oiseaux qui planaient paresseusement et de quelques vaches qui sommeillaient, aucun être vivant n'était visible. Tom ne pensait qu'à une chose, être libre. En attendant, il avait besoin, pour passer le temps qui lui paraissait interminable, d'une occupation digne de monopoliser son attention. Il fouilla dans ses poches et soudain, sa figure s'éclaira d'une lueur de gratitude
qui, à son insu, était une prière. Il avait retrouvé la boîte à amorce qu'il retira avec précaution. Il en sortit le scarabée qu'il mit sur son pupitre. Peut-être l'insecte, lui aussi, fut-il pénétré d'une gratitude qui équivalait à une prière, mais son illusion fut de courte durée, car lorsqu'il se mit en mouvement, Tom, avec l'aide d'une épingle, l'obligea à changer de direction. Joe Harper, H-A-R-P-E-R, le grand ami de Tom, était assis à côté de lui. Il éprouvait les mêmes impressions et s'empressa de se passionner pour le spectacle qu'il s'offrait à lui. Pendant toute la semaine, les deux gamins étaient de grands amis et le samedi, ils se rencontraient sur le champ de bataille à la tête de leurs armées. Joe tira une épingle du revers de son veston et collabora à l'instruction du prisonnier. Devant l'intérêt croissant que présentait le jeu, Tom déclara bientôt qu'on ne s'y reconnaissait plus et qu'il n'y avait plus moyen de savoir à qui c'était le tour. Il mit donc sur le pupitre l'ardoise de Joe, sur laquelle il traça une ligne de démarcation. Comme ça, quand il ira de ton côté, tu le dirigeras comme tu voudras, je n'y toucherai pas. Mais s'il vient de mon côté, tu le laisseras tranquille jusqu'à ce qu'il repasse du tien. Entendu, dit Joe. À toi de commencer. Au bout d'un moment, le scarabée s'enfuit de l'hémisphère de Tom et passa l'équateur. Persécuté par Joe, il retourna chez Tom et ainsi de suite. Pendant que l'un des gamins se consacrait à la conduite du scarabée, l'autre était tout aussi absorbé à le regarder faire. Le reste de l'univers n'existait plus pour eux. Les deux têtes étaient l'une contre l'autre au-dessus de l'ardoise. La chance paraissait sourire à Joe. Le scarabée essayait de passer d'un côté, puis de l'autre, puis revenait. Il finissait par être aussi agité, aussi impatient que les enfants eux-mêmes, mais à diverses reprises, quand le passage paraissait libre et qu'il avait, si l'on peut dire, la victoire à sa portée, un habile coup d'épingle de Joe lui faisait rebrousser chemin et le ramenait de son côté. Bientôt, Tom n'y tint plus. La tentation devint trop forte. Il allongea le bras et intervint du côté qui lui était interdit. Joe sentit la moutarde lui monter au nez. « Tom, laisse-le tranquille !»« Mais c'est rien que pour le redresser, Joe !»« Non, c'est pas de jeu, laisse-le tranquille !»« Oh, ça va, il s'agit pas de grand-chose !»« Par les pattes que je te dis !»« J'y toucherai si je veux, après tout !»« Il est de mon côté, ça n'a rien à faire !» Et puis dis donc, Joe, à qui il est le scarabée? Ça m'est égal, il est de mon côté, tu n'y toucheras pas. Je ferai ce qui me plaît, il est à moi, en fin de compte. Un formidable coup de badine tomba sur les épaules de Tom, puis sur celles de son voisin. Et pendant 2 minutes, on vit un nuage de poussière voler au-dessus des vestes de l'un et de l'autre, à la grande joie de toute la classe. Absorbés par leur jeu, les deux amis n'avaient pas remarqué qu'au bruit habituel avait succédé un grand silence, pendant que sur la pointe des pieds, le maître était venu voir ce qui les intéressait à ce point. Il avait même assisté à une partie de la représentation avant d'y mettre fin par son intervention personnelle. La classe finie, Tom courut vers Becky et lui chuchota à l'oreille. « Mets ton chapeau. Et fais comme si tu rentrais chez toi. Quand tu seras arrivé au tournant, laisse passer les autres et reviens par la petite allée. Je ferai le même trajet en sens inverse. » Becky partit avec son groupe, Tom avec le sien. Peu après, les deux enfants se rencontrèrent et revinrent dans la salle de classe où il n'y avait plus personne. Ils s'assirent sur un banc avec une ardoise devant eux. Tom donna à Becky un morceau de craie et, guidant sa main sur l'ardoise, l'aida à dessiner une maison aussi merveilleuse que la première. Quand les questions d'intérêt artistique furent épuisées, le bavardage reprit ses droits. Tom demanda « Aimes-tu les rats ?»« Oh non, je les ai en horreur !»« Moi aussi, quand ils sont vivants. Je veux dire les rats morts, ceux qu'on fait tourner au-dessus de sa tête avec une ficelle. Non, de toute façon, je ne les aime pas.
Ce que j'aime, dit-elle, c'est le chewing-gum.
Oh, moi aussi, dit Tom. Je voudrais bien en avoir un morceau.
J'en ai un, dit Betty. Je vais te le laisser mâcher un peu, mais après tu me le rendras.
Marché conclu. Ils mâchèrent chacun leur tour en balançant leurs jambes de contentement.
As-tu jamais été au cirque ? Demanda Tom.
Oui, et papa m'a promis de m'y emmener encore si je suis sage.
Moi, dit Tom, j'ai été au cirque 3 fois, 4 fois. Tu parles. Ah, c'est autre chose que d'aller à l'église. Au cirque, il se passe tout le temps quelque chose. Quand je serai grand, moi je serai clown dans un cirque.
Oh oui, comme ce doit être amusant de se peindre la figure comme ils le font, dit Becky.
Et ils gagnent beaucoup d'argent, presque tous, $1 par jour. C'est Ben Rogers qui me l'a dit.
Dit Becky, tu as déjà été fiancée?
Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Becky.
Eh bien, fiancée pour te marier?
Non, jamais.
Ça te ferait plaisir? Demanda Tom.
Peut-être, je ne sais pas.
En quoi cela consiste-t-il?
En quoi cela consiste?
Ça ne ressemble à rien d'autre. Simplement, on dit à un garçon qu'on n'épousera jamais, jamais que lui. Et puis on s'embrasse et voilà tout. Tout le monde fait ça.
S'embrasser.
Pourquoi s'embrasser? Demanda Becky.
Bah, parce que c'est pour... Enfin, ils font tous ça.
Tous?
Mais oui, bien sûr, tous ceux qui aiment quelqu'un.
Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai écrit sur l'ardoise?
Oui.
Et qu'est-ce que c'était?
Je te le dirai pas.
Veux-tu que je te le dise?
Oui, mais pas aujourd'hui.
Si, maintenant.
Non, pas maintenant, demain.
Si, maintenant. Je te le dirai tout bas, dans le creux de l'oreille.
Becky hésitait. Qui ne dit rien consent, pensa Tom. Il lui passa son bras autour de la taille et tout bas, timidement, bouche contre oreille, il murmura
« Je t'aime ».
Et il ajouta
« Dis-le-moi tout bas, toi aussi ».
Elle résista un instant et finit par dire
« Tourne la tête pour que tu ne me vois pas et je le dirai. Mais il ne faut raconter ça à personne, Tom. À personne, c'est promis, c'est juré. »
Je ne le dirai à personne, Becky.
Et il tourna la tête. Elle se pencha timidement jusqu'à ce que son haleine fît remuer les boucles de Tom et murmura
« Je t'aime ».
Alors elle se leva et, poursuivie par Tom, courut autour des bancs et des pupitres pour se réfugier finalement dans un coin en se protégeant le visage de son tablier. Tom la prit par le cou.
« Eh bien, Becky, dit-il, maintenant nous n'avons plus qu'à nous embrasser. N'aie pas peur. »
Et il lui tirait les mains qui tenaient le tablier. Petit à petit, elle céda et baissa les mains. Elle était toute rouge. Tom l'embrassa.
« Voilà, Becky. Et maintenant, tu n'aimeras plus personne d'autre que moi. Et tu n'épouseras personne d'autre que moi. C'est promis ?»«
Je n'aimerai plus personne d'autre que toi. » Et je n'épouserai personne d'autre que toi.
Mais, dit-elle, toi aussi, tu n'épouseras personne d'autre que moi.
Bien sûr, ça va de soi, ça en fait partie. Et en allant à l'école et en revenant à la maison, nous serons ensemble quand personne ne nous verra.
Et dans les réunions, tu me choisiras toujours. Et je te choisirai toujours. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est fiancé.
Oh, c'est gentil tout plein, dit Becky, je ne savais pas.
« On va bien s'amuser, dit Tom. Lorsqu'Aimé Laurence et moi... »
À la façon dont les grands yeux de Becky le regardèrent, Tom comprit qu'il avait fait une gaffe. Affolé, il se tut.
« Oh, Tom, alors je ne suis pas la première avec qui tu t'es fiancé ?» Et Becky se met à pleurer. « Ne pleure pas, Becky, je t'assure qu'elle n'a plus d'importance pour moi. Ce n'est pas vrai, Tom, je te crois pas.
Tom tenta de lui passer les bras autour du cou, mais elle le repoussa, se tourna vers le mur et continua à pleurer. Tom pria, supplia, elle le repoussa à nouveau.
Alors, il en fit une question d'amour-propre. Il sortit à grands pas de la salle de classe. Un moment, il attendit, agité et mal à l'aise. De temps à autre, il regardait la porte, espérant que Becky allait se raviser et revenir le rejoindre. Peine perdue. Alors il commença à s'inquiéter et à se demander si ça n'était pas lui qui était dans son tort. Il eut beaucoup de mal à se résoudre à faire de nouvelles avances, mais il prit son courage à deux mains et rentra. Becky était toujours dans son coin, face au mur, et elle pleurait toujours. Le cœur du gamin battait à se rompre. Tom s'approcha d'elle, gauchement, ne sachant pas trop comment s'y prendre. Hésitant, il balbutia. Becky, je t'assure que je n'aime que toi. Pour toute réponse, des larmes. Becky, supplia-t-il, dis-moi quelque chose. Encore des larmes. Alors Tom sortit de sa poche ce qu'il y avait de plus précieux, un anneau de cuivre qui provenait d'un chenet. Il le lui tendit de manière qu'elle pût le voir. Tiens, Becky, prends-le, je te le donne. Elle le jeta par terre. Alors Tom sortit de l'école avec l'intention de s'enfuir dans la campagne et de ne plus retourner en classe ce jour-là. Becky en eut le pressentiment et devint inquiète. Elle courut à la porte. Personne. Elle sortit dans la cour. Pas de Tom. Alors elle cria « Tom, Tom, reviens, Tom !» Elle écouta anxieusement, mais aucune réponse ne lui parvint. Autour d'elle, tout était silence et solitude. Elle s'assit pour donner libre cours à son chagrin, pour se faire à elle-même des reproches. À ce moment, ses camarades commencèrent à reparaître dans la cour. Il lui fallut cacher ses larmes, imposer silence à son cœur et s'infliger le supplice d'un long, morne et pénible après-midi, pendant lequel elle n'aurait auprès d'elle personne à qui se confier. Chapitre 8. Pirate en herbe. Tom erra à l'aventure jusqu'à ce qu'il eût la certitude de ne plus rencontrer aucun de ses camarades rentrant chez eux. Il était de fort méchante humeur. Deux ou trois fois, il traversa un ruisseau, conformément à une superstition juvénile qui voulait que franchir un cours d'eau brouillât la piste. Une demi-heure plus tard, il disparaissait derrière le château Douglas, tout en haut de la colline de Cardiff Hill. Au loin, dans la vallée, la maison d'école était à peine visible. Tom pénétra dans un bois touffu et s'assit au pied d'un grand chêne sur un tertre couvert de mousse. Pas un souffle de vent. Les oiseaux eux-mêmes ne chantaient plus. La nature semblait plongée dans une sorte de torpeur. Seul le martèlement cadencé d'un pivet au travail ponctuait le lourd silence et rendait l'impression de solitude plus accablante encore. Tom était plongé dans ses pensées, de tristes pensées, à l'unisson de l'ambiance environnante. Longtemps il resta assis, le menton dans ses mains, les coudes sur les genoux, absorbé dans une profonde méditation. La vie lui semblait un fardeau insupportable. Il se prenait à envier Jimmy Hodges, qui venait de disparaître. Oh, s'assoupir pour toujours, ne plus penser à rien, ne plus s'inquiéter de rien. Rêver pour l'éternité sous les arbres du cimetière, tandis que le vent agiterait les feuilles et ferait onduler l'herbe sur sa tombe. Ne plus avoir d'ennuis, ne plus avoir de soucis. Si seulement il avait un carnet intact à l'école du dimanche, il eût volontiers consenti à disparaître et à en finir avec ça. Et cette petite, que lui avait-il fait? Rien. Il avait agi dans les meilleures intentions du monde et elle l'avait traité comme un chien. Oui, comme un chien. Un jour, trop tard peut-être, elle regretterait ce qu'elle avait fait. Ah, si seulement il pouvait mourir momentanément. Mais les réflexions d'un gamin sont trop instables pour suivre longtemps le même chemin. Insensiblement, la pensée de Tom se reporta sur les soucis de l'existence présente. Pourquoi ne pas tout abandonner, disparaître mystérieusement? Aller, s'en aller très loin, loin au-delà des mers, dans des pays inconnus, pour ne plus jamais revenir. Qu'est-ce qu'elle éprouverait alors? Oui, il avait bien pensé s'engager dans un cirque, mais il n'envisageait plus cette éventualité que pour la rejeter. Il ne saurait être question de colifichet, de calembredaine, de déguisement bariolé, quand on se sent né pour planer dans les régions du romantisme. Non, il serait soldat, et après de nombreuses campagnes, il reviendrait chargé d'ans et de gloire. Mieux encore, il irait chez les Indiens, il chasserait le buffle, le bison, il s'engagerait sur le sentier de la guerre et dans les grandes plaines sans piste du Far West. Il deviendrait un grand chef, il serait tout couvert de plumes, il aurait la figure toute tatouée. Et puis, un moite et lourd matin d'été, il reviendrait. Il ferait irruption dans l'école du dimanche en poussant un cri de guerre si terrifiant que tous ses camarades dessécherait de jalousie. Fi donc, il y avait mieux encore à faire. Être pirate. Oui, c'est cela. Voilà l'avenir qui s'offrait à lui, dans toute sa splendeur. Sa renommée s'étendrait sur le monde entier, et les bonnes gens se signeraient au seul bruit de son nom. Quelle ivresse n'éprouverait-il pas à parcourir les mers sur son vaisseau rapide et léger, le génie des tempêtes, arborant au mât de Visaine son lugubre drapeau noir. À l'apogée de sa gloire, il apparaîtrait soudain dans son village natal. Il entrerait dans le temple, le visage hâlé par les intempéries, vêtu d'un juste au corps de velours noir, de chausses noires, de bottes noires, portant une écharpe rouge, les pistolets à la ceinture, le poignard au côté, le chapeau à plumes sur la tête, son lugubre drapeau flottant au vent. Avec tel délice, n'entendrait-il pas les gens chuchoter sur son passage? C'est Tom Sawyer, le pirate, le vengeur noir de la mer des Antilles. Fin de la première face de la troisième cassette. Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain, page 72.